Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique, assure la pleine forme de tous nos champions et championnes d'Afrique. Suivez Priorité Santé. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui en direct de l'hippodrome de Longchamp où se tient jusqu'à dimanche soir le festival Solidays, 21e rendez-vous, 21e édition initiée par l'association Solidarité Sida qui depuis la première édition 1999 a placé la jeunesse au cœur de ses actions de lutte contre l'épidémie de VIH-Sida. Solidarité Sida et Solidays, ce sont des initiatives et des programmes au pluriel, culturels avec les concerts, sanitaires, social, en informant sur la sexualité, en diffusant des messages de sensibilisation, en travaillant en partenariat avec d'autres associations impliquées sur le terrain pour toucher toutes les populations, y compris les plus vulnérables, y compris les plus exposés au risque de transmission du virus. Un événement porté par la solidarité et la lutte contre toutes les discriminations, partage de valeurs communes, travail auprès des communautés, musique, paroles, échanges, projets dont nous allons rendre compte au cours de cette émission. Priorité Santé qui s'est donc déplacée au cœur de ce festival, une machine colorée et efficace qui s'appuie sur le concours essentiel de près de 3000 bénévoles. Musique, paroles, échanges, projets, Priorité Santé en direct du festival Solidays à l'hippodrome de Longchamp. Avec nous, Luc Baruet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur, cofondateur de Solidarité Sida, organisateur de ce festival. Merci de nous accueillir. À vos côtés, Florent Maréchal, bonjour.
Bonjour.
Directeur des programmes Santé et Solidarité à Solidarité Sida. Parmi les 3000 bénévoles, eh bien, il y a vous, Noémie Pinchedez, bonjour.
Bonjour.
Témoignage, échange d'expérience avec des acteurs de terrain. Augustin, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous militez au sein de l'association Espoir Vie Togo et vous-même, vous êtes séropositif depuis près d'une trentaine d'années. Et puis nous donnerons également la parole au docteur Léonie Saïdi qui nous fait le plaisir d'être ici. Bonjour.
Bonjour.
Docteur Saïdi, médecin RDC au sein de l'association SOS Bukavu qui prend en charge des enfants orphelins du sida. Vous menez également des actions de prévention auprès de la jeunesse. Et puis autre illustration du travail auprès des communautés, cette fois le Cameroun avec vous, Pascal Kapchuang, bonjour.
Bonjour Caroline.
Responsable de la planification et du suivi des actions au sein de l'association des femmes africaines Action Sida à Douala.
Priorité santé sur RFI.
Luc Baruet, Solidays, année après année, fréquentation en hausse, 21 années déjà passées. Alors qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui reste intact ?
Ce qui reste intact, c'est l'envie de faire déjà peut-être, parce que ça fait, comme vous l'avez rappelé, déjà un certain nombre d'années qu'on a commencé cette aventure de Solidays, qui est une aventure humaine d'abord, humaine à la fois dans sa conception, son intention et sa réalisation au quotidien, et puis humaine dans son efficacité et sa finalité, puisque ce festival, il a aussi pour vocation de rendre heureux les gens le temps d'un week-end en prenant des valeurs, en partageant des valeurs autour de l'empathie, la bienveillance, la solidarité, et puis que tous ces bons moments qu'on passe dans le cadre du festival, eh bien, ils soient profitables à d'autres, donc en l'occurrence à des associations ou à des jeunes qui bénéficient de programmes de prévention ou d'aide aux malades, ici ou ailleurs. Donc c'est un peu la vocation de ce festival, c'est d'être ouvert au-delà des limites du festival et de l'hippodrome de Longchamp, pour s'ouvrir sur des gens qui en ont besoin.
Est-ce que vous savez si les jeunes, les festivaliers qui viennent ici le temps de ces 3 jours de concert, ils ont conscience de tout ce qu'il y a derrière en termes d'enjeux de santé? Bien sûr, on vient voir un artiste, un groupe, on vient l'écouter. Est-ce que beaucoup découvrent encore tout ce qu'il y a derrière cette machine Solidays?
Alors, au risque de vous surprendre, c'est pas une question qu'on se pose. Dans le sens où que des gens viennent à Solidays en étant conscients des réalités sida, en mettant des préservatifs systématiquement, en s'étant fait dépister, c'est pas des questions qu'on se pose parce que tout le monde est le bienvenu ici, d'accord? Et il y a même des gens qui viennent parce qu'ils sont fans de l'homme pâle et la lutte contre le sida, ça les concerne pas. Mais c'est pas grave, ils sont les bienvenus, il n'y a pas de sujet.
Mais c'est pas un problème d'aimer la musique ou de s'informer. On n'a pas besoin de choisir entre les deux. Ce que je voulais juste savoir, c'est est-ce que, en achetant, parce que si quand on achète son billet, on donne pour le travail de terrain, on donne pour ses actions de terrain, exactement, est-ce qu'ils savent ce qu'il y a aussi derrière?
Je crois qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les gens veulent bien l'imaginer, à être conscients à la fois de qui organise, à quoi ça sert, et surtout de ce qu'ils peuvent y trouver, ce que ça peut leur apporter. Parce que ce festival, il est construit autour d'un win-win humain. Et donc, en gros, on offre la possibilité à des gens de nourrir leur quête de sens, de participer à un moment festif tout en se sentant utile, voilà, ce qui est déjà beaucoup, voire même on leur permet de s'ouvrir sur un monde associatif, de s'engager, de participer à des choses qui les dépassent individuellement ou collectivement. Et ça, je pense que les gens en ont bien conscience. Et même ceux qui n'en ont pas du tout conscience, quand ils repartent d'ici, on a planté une ou deux petites graines qui germeront dans les semaines, voire les années à venir.
Et on visualise même sur la géographie des lieux, avec des espaces qui sont purement musicaux, et puis des espaces de rencontres, de discussions, de paroles, justement de partage de toutes ces valeurs.
Ben, je pense que c'est la richesse de ce festival, c'est bon, bien évidemment sa programmation, parce que c'est, comme je le dis souvent, si on avait organisé un grand pique-nique à Longchamp, ça serait beaucoup moins nombreux. Hein. Donc heureusement qu'il y a des artistes pour donner les foules. Par contre, ce qui est clair, c'est que les gens qui viennent ici, pour la plupart, c'est des gens qui s'ouvrent aux autres davantage dans le cadre de ce festival. Et d'ailleurs, souvent, on parle de Solidaise comme d'un festival bienveillant. On utilise même le terme de bisounours, vous voyez. Donc, mais si le terme de bisounours, c'est pour traduire des gens qui se soucient des autres, je trouve que c'est une belle mission.
Alors justement, il y a faire venir les artistes, il y a aussi faire venir tous les acteurs de terrain, Florent Maréchal, justement ce côté carrefour entre la fête et puis l'information et l'action.
Tout à fait, ben on le retrouve déjà, effectivement, Solidarité Sida convie partie de ses partenaires, notamment partenaires internationaux. Cette année, c'est près de 24 associations qui sont présentes de 12 pays, qui sont des associations qui sont soutenues tout au long de l'année par Solidarité Sida, grâce notamment au festival Solidays. Et puis, effectivement, sur site, on retrouve tout un tas d'espaces, de dispositifs, un village associatif avec près de 100 associations, un parcours de prévention, l'exposition Sex in the City, c'est près de 80 000 préservatifs qui sont distribués en 3 jours, des prises de parole, les militants qui sont autour de la table, certains vont prendre la parole sur scène avant les concerts, et puis on diffuse, c'est près de plus de 100 diffusions de spots de prévention sur les écrans.
Alors Florent Maréchal, on comprend, c'est le tout début du festival, il nous a quittés et on le salue. Espace de parole, hein, on l'a dit, on a autour de cette table Augustin, je vous présente comme patient militant, ça va, originaire du Togo, patient militant?
Oui, patient militant, activiste de la vie, activiste pour l'accès au traitement, pour les populations les plus vulnérables, les plus exposées. Et c'est tout mon existence, c'est tout mon combat dans la lutte contre cette épidémie qui m'a touché personnellement et pour lequel je vis très 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 positivement avec. Je n'en fais pas un drame. Ce n'est pas pour autant le banaliser, parce que lorsque vous l'avez pour le restant de votre vie, et si vous ne savez pas, cela pourrit énormément la vie, ce foutu virus, comme je me plais de l'appeler, le VIH.
Augustin, justement, quand on fait passer ce message de sensibilisation, qu'est-ce que ça change, le fait d'être soi-même concerné? Vous avez l'impression qu'on vous écoute d'une autre manière?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que je ne raconte pas une histoire, je raconte l'histoire de ma vie, je raconte mon vécu, je raconte ce que j'ai dans ma chair, je raconte ce que je vis au quotidien, je raconte mes contacts, et je pense que je suis plus indiqué à être écouté et puis à parler mieux que de raconter une histoire par rapport à cette infection. Et c'est ce que je fais quasiment près de 25 ans sur tout terrain, et au niveau Afrique, au niveau international, c'est mon quotidien. Je pense que c'était très, très fondamental, comme les gens comme moi, comme mes prédécesseurs qui quand même ont eu à prendre la parole aussi, à parler de cette infection, à parler de son vécu et à parler aussi de ce qu'est de s'engager pour ses pairs.
Alors, le témoignage et le bénévolat que vous incarnez autour de cette table, Noémie Pingès, je disais tout à l'heure, hein, depuis quand est-ce que vous avez pris part à cette aventure Solidays?
Alors, moi je suis bénévole depuis 2006, donc c'est ma 14e édition.
Comment on s'inscrit, comment on devient bénévole? C'est peut-être stupide comme question, mais je me la pose. On arrive ici, on voit tous ces jeunes sacs au dos qui se préparent à passer plusieurs nuits en camping, qui viennent donner de leur temps. Pour la plupart, ce sont des étudiants qui ont terminé la fin d'année approche. Comment ça s'est passé pour vous?
Alors, moi j'y suis déjà venue en festivalière, avec ma mère et ma sœur, puis avec des amis. Et puis quand j'ai eu l'âge de pouvoir m'engager à la majorité, j'ai fait ça dès que j'ai pu. C'est assez simple, hein, il suffit d'envoyer un mail et puis de devenir bénévole. Et puis,
des festivals, voilà. Il y en a beaucoup. Pourquoi Solidays?
Parce que c'est s'engager auprès d'une lutte, parce que c'est pour la solidarité, parce que c'est aussi fait avec bonne humeur dans la musique et avec un côté assez ludique. Et du coup, voilà, tout ce mélange fait que on est là pour une bonne cause et on le vit bien.
Alors, des préoccupations, bien sûr, la lutte contre le VIH-SIDA, rencontre avec les acteurs, on va leur donner la parole dans quelques instants. Des préoccupations qui dépassent, d'ailleurs, on parle bien au-delà de cette épidémie de VIH à Solidays. Cette année, Florent Maréchal, on va parler du réchauffement climatique, de la sexualité, du droit des femmes. C'est toujours essentiel, justement, cette ouverture, cette association entre la musique, la parole militante et les droits de la personne dans le sens le plus large.
Tout à fait. En fait, on, à travers Solidays, on dit souvent ici qu'on essaye de donner du sens à la fête. Et effectivement, on est une association de lutte contre le sida, mais on souhaite élargir et surtout offrir à nos festivaliers et leur montrer en fait la richesse de la diversité de la société civile et leur offrir aussi un terrain d'engagement. Parce que Solidays, c'est ça. Un jeune festivalier qui va au village, par exemple, qui rencontre une association, peut vouloir s'engager pour le développement durable, par exemple.
Alors, ce qui intéresse vraiment nos auditeurs aujourd'hui, hein, tous ceux qui nous écoutent, notamment sur le continent africain, c'est que pas mal d'initiatives de terrain sont financées grâce à tous ces jeunes aujourd'hui qui viennent écouter de la musique. On achète un billet et ça se traduit justement. Comment ça se transforme, Florent Maréchal, Solidarité SIDA travaille avec combien d'associations au juste ?
Très concrètement, une fois que le festival est terminé, au second semestre, 2019, avec les enveloppes dont on disposera, nous lançons des appels à projets et nous soutenons des projets associatifs, des projets de prévention et d'aide aux malades. Pour vous donner une idée, en 2019, nous soutenons 110 projets dans 21 pays en partenariat avec 80 associations et ONG locales, et ce, grâce à Solidays 2018. Donc c'est pour vous dire l'impact de ce festival pour ces programmes de prévention et d'aide aux malades.
Des associations en France ici, dans des pays du Sud, jusqu'en Asie, un petit peu partout dans le monde.
Essentiellement en Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, aussi de plus en plus en la région MENA, Maghreb Moyen-Orient, qui est une zone à haut risque et avec une dynamique épidémiologique assez inquiétante, l'Europe orientale qui est aussi dans cette dynamique inquiétante, et puis nous avons un projet en Inde également.
Alors, des concerts à Paris, des actions de terrain, on l'a compris. Justement, on a parlé de l'Afrique centrale et Afrique de l'Est qui représentaient autour de cette table. Docteur Léonie Saïdi, SOS Bukavu, quel est votre rôle au sein de votre association ?
Merci. Au sein de l'association, je suis chargée de la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Et là, j'ai fait, comme toute personne vivant avec le VIH, en venant au centre, nous l'accueillons, nous faisons des consultations et des examens, des suivis, et nous donnons des traitements et assurons le suivi quasi continuel.
Alors, vos actions, elles sont ciblées aussi bien sur les adultes que sur les enfants.
En effet, les adultes, les enfants, que ce soit les hommes ou les femmes, et de tout genre.
Et justement, quelle proportion de la population, est-ce que vous pouvez nous décrire justement ces actions ? Par exemple, pour les enfants, quelles actions spécifiques ?
Pour les enfants, généralement, nous, spécifiquement, nous faisons des activités en rapport avec l'information.
Ce sont surtout des orphelins du sida que vous prenez en charge ou des enfants en général ?
Des enfants en général infectés par le VIH. Et il y a aussi quelques activités en regard des enfants affectés, mais plus ce sont des enfants infectés qui sont au centre des activités. Nous faisons particulièrement des ateliers de préparation à l'annonce du diagnostic, parce qu'un enfant de 5-10 ans, il est difficile pour lui de comprendre qu'il a le VIH, alors nous le préparons à cela. Et dans le suivi médical, il y a aussi ce que nous faisons particulièrement, c'est l'hébergement des personnes vivant avec le VIH et selon les besoins.
Et dans, justement, dans cette zone du Sud Kivu, vous exercez, je l'ai dit, à Bukavu, docteur Léonie Saïdi, en RDC, est-ce qu'une large partie de la population se sent concernée, ou comme dans beaucoup de parties du monde, on dit, le VIH-SIDA, c'est pas moi, c'est les autres?
Oui, de plus en plus, les personnes se sentent concernées parce que c'est, comme je disais tantôt, c'est devenu une réalité, ce n'est plus mythique. Et il y a encore beaucoup à faire parce qu'on n'arrive pas vraiment à atteindre toute la population de la région du Sud Kivu, parce qu'il y a encore des milieux trop éloignés et difficiles à accéder à cause des routes, des conflits armés, tout ça, mais nous continuons la lutte.
Noémie Pachdez, bénévole sur le festival. Alors, est-ce que votre engagement ici, hein, ce que vous faites pendant ces trois jours, j'imagine que ça ne dure pas simplement trois jours quand on est bénévole, ça va bien au-delà. Est-ce que ça a eu un impact sur vos comportements, par exemple en matière de prévention? Est-ce que du coup, on va dire que le virus, la lutte contre le virus est installée dans votre vie? Vous en parlez au quotidien? C'est quelque chose qui reste au cœur de vos préoccupations?
Ah, bien évidemment, c'est un sujet qui va revenir assez fréquemment, d'une part avec les amis que je me suis fait sur le festival, mais aussi avec les personnes que je côtoie au quotidien. Voilà, dès que la sexualité est abordée, on parle un petit peu de prévention. Alors après, pas forcément dans les détails, parce que on n'a pas toutes les infos. Enfin, moi personnellement, j'ai pas toutes les infos, mais voilà, ne serait-ce que de se protéger, d'utiliser des seringues différentes, voilà, quand les personnes peuvent se droguer ou autre. Oui, c'est des choses qui reviennent très régulièrement.
Alors, autre acteur de terrain là, au Cameroun, je me tourne vers vous, Pascal Kapchuang. Votre association s'appelle Soie Littorale, c'est ça, à Douala?
Oui, alors, il s'agit bien de la Soie Littorale.
Alors, vous faites un gros travail d'information et de prévention auprès de qui? Auprès de quelle population?
Oui, nous travaillons auprès de la population générale, mais avec un accent chez les jeunes, des jeunes dans des établissements scolaires et des centres de formation, et surtout des femmes travailleuses de sexe sur des sites prostitutionnels avec leurs partenaires.
Alors, quand on intervient à l'école, déjà, c'est à quel niveau? Au niveau du collège, plutôt?
Oui, c'est essentiellement au niveau du collège, parce que nous avons ciblé des jeunes de 14 ans à 25 ans. Et nous intervenons dans ces établissements avec l'accord des responsables d'établissement. Et nous avons un programme que nous développons là-bas, l'éducation globale à la sexualité. Il est question pour nous dans ce programme d'améliorer les connaissances des jeunes sur leur corps en parlant de sujets tels que l'anatomie, la puberté, les cycles menstruels, l'estime de soi, l'affirmation de soi et autres. Donc, une heure de cours par semaine dans des différentes classes sélectionnées nous aide à passer des messages et avoir des retours, parce que nous insistons sur le fait que des jeunes doivent rendre compte de ce coup à leurs parents et recueillir leur avis pour qu'on en discute lors des prochaines rencontres.
Justement, Pascal Kapchuang, j'avais cette question. On sait que les jeunes ont un véritable appétit de connaissance, hein. Ils sont curieux, ils ont moins de tabous que la deuxième génération. C'est quoi le retour des parents? Est-ce qu'il y en a qui disent « mêlez-vous un peu de vos affaires, restez en dehors de l'école, l'éducation de nos enfants, c'est notre affaire, c'est pas la vôtre ».
Non, nous avons un retour très positif
de la chance,
des parents,
bien sûr,
parce que la sexualité reste un problème, je ne dirais pas tabou, mais c'est quelque chose d'assez codifié. Des parents n'ont pas des mots pour parler de ce sujet avec leurs enfants, donc du coup, ils vont beaucoup s'orienter vers les interdits. Donc ils vont parler de sexualité, mais en termes d'interdits, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas.
Danger.
Voilà, danger. Si tu sors la nuit, si tu mets une petite jupe, on va te violer, par exemple. Si tu vas chez un garçon, tu entres dans sa chambre, tu t'assois sur son lit, tu seras enceinte. Voilà, entre autres anecdotes que nous avons des jeunes. Et du coup, pour la plupart des parents, c'est un soulagement, c'est un ouf. Enfin, il y a des gens qui s'en occupent. Nous avons reçu souvent des lettres de félicitations de certains parents. Et surtout parce que dans certains établissements, quand c'est possible, nous avons l'occasion de présenter ce programme aux parents lors des réunions de l'association des parents d'élèves.
Et ils sont convaincus parce que vous savez trouver les bons mots pour vous adresser à ces jeunes?
Effectivement, parce que des intervenants de ce programme sont des personnes formées, ce sont des personnes qui ont pris le temps de maîtriser déjà des sujets et de l'adapter. Parce que en fonction des classes, en fonction des tranches d'âge aussi, le message, les mots sont bien adaptés, mais en restant dans l'objectif qui est de donner des informations avec un langage scientifique valorisant. Parce que pour nous, il n'est plus trop question de parler de pipi à la place de pénis, de parler de zizi et autres. Nous voulons que des jeunes arrivent à prononcer des mots, à parler de leur corps, du fonctionnement de leur corps avec des mots justes, compréhensibles de tous sur tous les coins de la terre. Voilà.
Et le retour, il est bon? Les jeunes, ils vous posent des questions? Ils sont vraiment attentifs et curieux? Ils ont une soif de connaissance?
Oui, oui. Ils sont très attentifs, très attentifs. Ils posent assez de questions. dès les premières rencontres, le temps de présenter les 18 modules du programme, il y a déjà des questions qui arrivent. C'est quoi la masturbation? C'est bien si on utilise le savon, si on utilise
du
la
concret,
mousse.
Du concret.
Voilà. Donc, il y a des questions comme ça. Si une fille n'a pas les règles, ça veut dire quoi? Ainsi de suite. Donc, il y a tellement de questions qui arrivent et c'est à nous maintenant de les cadrer en disant, bon, pour telle question, nous allons aborder dans tel sujet, pour telle question, nous allons, pour telle préoccupation, nous allons aborder tel chapitre, tel module, et ça va permettre d'avoir des connaissances progressivement, parce que nous commençons par le corps, les organes génitaux et tout, nous enchaînons avec la puberté. Nous leur parlons du cycle menstruel parce que c'est après la puberté que ça arrive ou pendant la puberté pour certains. Et ainsi de suite, nous parlons de la reproduction, nous parlons même des contraceptifs. Bien que c'est souvent un sujet assez difficile, nous l'abordons. Nous parlons de l'avortement, même comme c'est interdit au Cameroun, nous parlons...
Vous parlez des réalités.
Voilà, des réalités.
Florent Maréchal, comment Solidarité Sida décide de soutenir tel ou tel projet, telle ou telle association ?
On a un comité qui se réunit, d'ailleurs j'en profite pour saluer les membres de ce comité qui s'engagent bénévolement à nos côtés, un comité France pour les projets soutenus en France et un comité international. Et puis les associations telles que celles qui sont autour de cette table nous envoient en fait un dossier de candidature qui est une réponse à l'appel à projet. Et nos équipes, donc à Solidarité SIDA, et ce comité d'experts en fait, qui sont des personnes extérieures à l'association mais qui ont une expertise dans le champ de la lutte contre le sida, eh bien on va instruire conjointement les différents projets.
Alors, quand on est très très loin du terrain d'intervention de ces associations, comment, une fois qu'on a sélectionné, ou une fois qu'ils ont commencé le travail, comment on s'assure de leur efficacité ? On sait bien que pour ce genre de projet, on l'a vu dans de nombreuses régions du monde, il y avait des détournements de l'usage des fonds. C'est quelque chose qui est très important, cette question de gouvernance, pour que les gens qui donnent sachent, là en l'occurrence qui viennent se divertir, sachent que tout ça sert pour les bonnes personnes.
Tout à fait. Après, nous, depuis toujours, Solidarité SIDA, on fonctionne sur le principe de la confiance dans nos partenaires et de la proximité. On a une vraie relation de proximité avec nos partenaires. On se connaît bien, on s'appelle, on sait qu'on s'envoie des mails. Heureusement, aujourd'hui, on a des moyens de communication qui nous permettent. Et puis surtout, on se déplace, on fait des missions. Et d'ailleurs, dans 15 jours, je vais au Cameroun. Je vais aller à Yaoundé et à Douala avec une partie de mes équipes. Et donc, on va aller sur le terrain, mais... C'est pas du contrôle, c'est on va travailler avec nos partenaires pour voir comment s'implante le projet, est-ce qu'on peut l'améliorer ensemble. C'est vraiment ce travail ensemble et de proximité.
On fait remonter l'information aussi, on peut améliorer du coup la prise en charge de terrain avec ces remontées d'informations.
Tout à fait, et puis bien évidemment il y a des phases de bilan, chaque association envoie un bilan, le reporting entre guillemets classique, et derrière ça peut faire l'objet d'un certain nombre d'échanges, encore une fois par téléphone ou par mail. Et on essaye, ce qui est très enrichissant surtout, c'est de confronter aussi nos approches, nos points de vue. Et par exemple, sur les sujets de prévention jeune, autour de la table, que ce soit EVT, que ce soit la soie, on a une approche qui est assez similaire, avec bien évidemment une adaptation un petit peu différente en fonction de nos publics. Mais ce qu'a dit Pascal à l'instant, nous, c'est ce qu'on fait à Solidarité SIDA sur le terrain ou dans l'expo de prévention à Solidays. Mais des fois, il y a bien évidemment des différences et donc on le travaille ensemble, on réfléchit ensemble pour toujours améliorer nos projets et la réponse aux besoins.
Alors, Priorité Santé RFI, toujours en direct du festival Solidays. On vous retrouve, Augustin. On a entendu ces deux expériences tout à l'heure. République démocratique du Congo, Cameroun. Vous, patient militant originaire d'Afrique de l'Ouest. On va revenir à votre histoire parce que c'est à la fois le témoignage et le travail sur le terrain. Votre séropositivité, vous en avez pris connaissance dans quelles circonstances? Et si je vous pose ces questions, c'est pas par curiosité, c'est simplement parce que quand on donne la parole à des personnes qui sont directement concernées, on leur donne un visage, on leur donne une âme et on voit qu'on est tous ensemble, tout simplement. Allez-y, Augustin.
Merci, Caroline. Merci. Et ma séropositivité, je l'ai eue après plusieurs infections dues à au VIH. J'ai développé pas mal d'infections. Et je peux dire que je mourrais, je suis revenu à la vie. Parce que lorsque je tombais malade et autres là, j'allais systématiquement à l'hôpital, mais aucun médecin dans les années 90 n'a jamais eu le courage de me dire « Augustin va faire un test de dépistage ». D'ailleurs.
Et vous étiez à l'époque un jeune homme, quoi.
Oui, un jeune homme.
Vous auriez dû être en bonne santé. 18 ans, on ne multiplie pas les infections quand on est en bonne santé.
Et puis, j'ai quitté quasiment 70 kilos à 48 kilos parce que je pesais, j'ai perdu tout mon poids, je développais des maladies pas possibles et j'allais systématiquement à l'hôpital, mais malheureusement après une hospitalisation de 81 jours, 3 mois environ, mais je me suis dit, enfin, je ne sais pas de quoi je souffre. Et je me suis levé pour aller faire un test de dépistage volontaire.
Ça veut dire que jamais, dans votre parcours médical, personne ne vous l'a proposé.
Proposé, jamais. Et moi-même, je ne le soupçonnais pas parce que jusque-là, je n'ai pas encore eu mon premier rapport sexuel. J'avais une connotation, le VIH égale le sexe et autre là. Mais je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsque je l'avais dit à un cousin à moi que j'irais faire le dépistage, lui s'est étonné, mais Augustin, qu'est-ce que tu as à voir avec cette infection? Pourquoi tu veux aller le faire? J'ai dit, mais j'ai tout fait, mais je ne sais pas de quoi je souffre. J'ai développé multiples infections opportunistes liées à cette infection. Alors, je suis allé, j'ai fait le test et c'est positif.
Et quelle a été la réaction, d'abord la vôtre et puis celle de votre entourage?
La réaction, d'abord la mienne, c'est... D'abord, un ouf de soulagement.
Vous saviez enfin?
Enfin, je sais de quoi je souffre. En même temps, un petit pincement au cœur parce que j'aurais voulu que ça soit autre chose que le VIH parce que le VIH, dans le temps, égale la mort.
À cette époque-là, même si on va en reparler, les choses ont changé aujourd'hui.
C'est ça, égale la mort. Et en même temps, également, j'ai eu l'assistance de... une conseillère psychosociale également qui m'a en même temps référé à une ONG extraordinaire qui s'appelle Espoir Vie Togo, qui est la première association de personnes vivant avec le VIH-SIDA créée depuis 1995. Et arrivé là-bas dans cette association, j'ai vu deux jeunes dames, Maggie et Brigitte, et qui m'ont souri et qui m'ont reçu. Et en même temps, j'ai laissé tout ce que je faisais. Je me dis, dorénavant, toute ma vie sera consacrée à la lutte contre cette infection. Alors, mon entourage, j'ai eu pas mal de temps pour les préparer. Préparer d'abord mon cousin à qui j'avais dit que j'irais faire le test. Je suis revenu, je lui ai dit. Il a versé toutes les larmes de son corps. Et c'est plutôt moi qui étais plus fort pour le consoler. Et le lendemain, il m'a demandé, montre-moi là où tu es allé faire ton test, j'irai faire le mien. Alors je l'ai amené, il l'a fait, c'est négatif, merci à Dieu. Alors en même temps pour mon entourage, j'ai préparé mes parents pour le leur annoncer. Ma mère a versé toutes les larmes de son corps également pour dire, mais je vais perdre mon fils. J'ai dit à maman en ce temps que je ne mourrai pas de cette infection, je mourrai avec. Ce n'est pas le VIH qui va me conduire, malgré que je n'avais pas de traitement. Malgré que je n'avais pas de terme, malgré que le traitement n'existait quasiment pas, ça existait mais ça coûtait les yeux de la tête. Moi, pauvre citoyen lambda du Togo, d'un coin de Lomé, je n'ai pas les moyens de se lâcher.
Et on n'avait pas encore les médicaments qui étaient aussi efficaces qu'aujourd'hui. Je vais donner la parole au docteur Léonie Saïdi pour reparler de votre activité au sein de SOS Bukavu. Il y a bien sûr, on a dit tout à l'heure, vous disiez les consultations, cette dimension purement médicale, et il y a aussi tout un travail de lutte contre l'exclusion, qui concerne d'ailleurs autant les enfants que les adultes. Comment, justement, vous travaillez contre la stigmatisation pour que les personnes ne se sentent pas rejetées?
Merci. Pour lutter contre la stigmatisation, en effet, nous avons développé plusieurs stratégies. Nous faisons d'abord une éducation. Nous éduquons la famille, nous éduquons la personne concernée, et s'il y a un conflit familial qui fait que la personne est rejetée, nous l'hébergeons. Comme j'ai parlé de notre centre d'hébergement, la personne, nous la gardons dans notre centre, le temps pour nous de discuter avec la famille pour réconcilier, et au bout de cela, le résultat, il est toujours bon.
Il y a une fonction de médiation très importante au sein de la communauté.
En effet.
Et vous aussi, Augustin, vous vouliez réagir?
Oui, toute ma vie aussi, c'est la lutte contre la stigmatisation, la discrimination. La première stratégie, c'est de déposer un visage humain sur cette infection. qu'on ne pense pas que ceux qui vivent avec le VIH, c'est des persiférés, c'est des gens qui sont tombés du ciel, mais nous sommes ensemble. Nous vivons dans la communauté, nous sommes les mêmes, nous avons le même sang rouge qui circule dans notre sang également. Alors également, c'est la conscientisation, c'est les témoignages à visage découvert à travers les établissements scolaires, les universités, les réunions, etc. etc.
Parce que vous parlez de la manière dont vous avez appris votre séropositivité, mais ce que vous pouvez raconter aussi, Augustin, ce qui est très important, c'est que cela ne vous a pas empêché d'avoir des projets de vie, d'avancer et de fonder des choses dans votre propre existence.
Oui, et heureusement, ça ne m'a pas empêché, mais j'ai quand même traversé une longue période d'auto-stigmatisation. D'auto-stigmatisation parce que comme je n'avais pas aussi assez au traitement et autres, j'ai refusé de fonder une famille, de faire des enfants et autres là. J'ai commencé, ça fait très peu, à peine 8 ans que j'ai commencé par réfléchir. J'ai eu une fille extraordinaire et un garçon à peine 1 an également qui font ma joie et qui m'ont...
Est-ce que vous avez attendu, Augustin, ça c'est important, est-ce que vous avez attendu, comme vous êtes sous antirétroviraux, ces médicaments qui marchent, que votre charge virale soit indétectable pour fonder cette famille? Comment ça s'est passé?
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je tiens également à remercier rapidement Solidarité SIDA, cette association extraordinaire qui m'a permis, parce que en 2001, je n'avais pas le traitement dans mon pays. Et c'est Solidarité qui m'a permis d'être sur le territoire français et de pouvoir quand même avoir accès au traitement antirétroviral, parce qu'il y avait quand même un slogan très fort. Dans le temps, les malades étaient au sud et les traitements étaient au nord.
C'était ça, quand il y a eu toute la lutte pour l'accès au traitement, c'était très important.
Et les pays du nord pensaient que nous, les Africains, ne sommes pas capables de bien prendre les traitements. Mais toutes les études...
Il y avait tout ce mythe de l'horaire, hein, soi-disant, les gens n'ont pas de montre, les gens n'ont pas d'horaire, comme s'il n'y avait pas le soleil ne se lève pas, c'est comme ça.
Mais je pense que l'avenir et l'histoire les ont démentis. Et nous sommes les meilleurs observants au monde. Nous, les Africains, qui sommes aujourd'hui sous traitement. Alors, et ça m'a permis d'être mis sous traitement. Et dès les premiers 6 mois, j'ai supprimé ma charge virale. C'est-à-dire que ma charge virale est réduite dans sa portion congrue qu'il ne peut plus transmettre. Je ne peux plus transmettre aujourd'hui cette infection. Et une fois que cela est acquis, aujourd'hui, je me suis dit, paf, mais il faut construire la vie. Là, après tout, la vie continue. Parce que l'espérance de la vie commence par s'allonger. Avant, il n'y en avait pas d'espérance de vie. Et j'ai construit, je me suis construit, et j'ai fondé la famille, je me suis marié, j'ai fait un deuxième enfant qui est arrivé, 5 et 1 an également. Merci pour ça.
Un projet de vie, Noémie Pinchdès, quand justement vous engagez, vous êtes bénévole, quand vous parlez de votre engagement autour de vous, est-ce qu'il reste encore des traces ou carrément de la stigmatisation?
Non, moi dans mon entourage j'en vois peu, heureusement. Après, on est quand même en France, donc ça fait aussi un moment qu'on parle du VIH et qu'on connaît les moyens de prévention. C'est pas pour ça qu'ils sont tous tout le temps utilisés, hein, mais non, il n'y a plus de stigmatisation dans mon entourage liée au VIH.
Alors, travailler auprès des personnes pour cette sensibilisation, Pascal Capchuang, c'est parler à un large public, comme quand vous allez dans les écoles, mais c'est aussi s'adresser à ce qu'on désigne encore comme des populations cibles, en particulier vous, auprès des travailleuses du sexe. Comment ça se passe? Comment s'établit le contact? Dans quel cadre?
Les travailleuses de sexe, justement, constituent une population clé, une population cible, parce qu'au Cameroun, nous avons dans ce groupe-là une prévalence autour de 24%. C'est assez important pour le VIH et 8% pour la syphilis. Donc, c'est un groupe vraiment concerné. Et le contact pour nous a été un peu plus simple parce que la SOA à la base c'est une association de femmes et pour la SOA il était question dès le début de s'occuper de la santé des femmes et surtout des femmes marginalisées, des femmes démunies, et les travailleuses de sexe sont encore concernées parce que le travail de sexe est criminalisé au Cameroun mais toléré un peu par la société, donc du coup ces femmes subissent des violences et tout. Donc le contact c'était d'aller vers elles, essayer d'identifier des groupes, si elles sont organisées en association, si elles ont des leaders, et à partir de ces leaders de groupes, à partir des aubergistes, commencer à se présenter, donner quelque chose, apporter des préservatifs, apporter des gels. Et ça, le contact se faisait progressivement et on est arrivé à établir des programmes de travail. On sait que tous les mercredis, on ira dans tel site pour discuter avec des filles de ce site. Tous les vendredis, on peut aller dans tel autre site.
Avec donc, aussi une incitation de mise sous traitement, là encore, pour agir sur la charge virale?
Oui, puisque à côté des activités de prévention, sensibilisation, nous faisons des campagnes de dépistage déjà sur site et les invitons aussi à faire le dépistage dans notre centre. Et pour toutes les filles positives qui ont eu un résultat positif au test du VIH, la prise en charge est proposée et elles sont accompagnées. Donc, si elles viennent au centre, elles bénéficient des consultations médicales, de l'accompagnement psychosocial, de conseils nutritionnels. Et la SOA est un centre de dispensation communautaire des ARV depuis 2017. Donc, des filles suivies, consultées sur place, reçoivent aussi des médicaments sur place. Et nous faisons des efforts de réduire la dépendance, c'est-à-dire donner souvent 2 mois de traitement antirétroviraux pour qu'elle n'ait pas à revenir tout le temps.
Et qu'il n'y ait pas de rupture. Docteur Léonie Saïdi, on a bien compris tout à l'heure votre travail au plus près des populations, avec notamment toute une fonction de médiation, des médiateurs communautaires, et puis aussi, bien sûr, le savoir-faire médical avec des tests de dépistage. Est-ce que justement, docteur Saïdi, ces tests sont toujours disponibles? Est-ce qu'ils correspondent bien aux usages de la population?
Les tests ne sont pas vraiment ne couvrent pas tous les besoins de la population parce qu'il y a encore en 2016 selon l'ONU il y a encore 80% des jeunes qui n'ont pas été dépistés et aussi il y a des zones non encore couvertes et cela ce n'est pas que pour les dépistages mais pour les paquets de prise en charge en général.
On a bien compris tout à l'heure l'importance à la fois de connaître quand on est séropositif sa charge virale. Ça fait d'ailleurs partie des fameux 3-90, hein, objectif d'ONU-SIDA pour 2020. C'est dans un an. 90% des patients séropositifs dépistés, c'est l'objectif. 90% sous ARV, antirétroviraux, donc les médicaments qui marchent bien. 90% avec une charge virale indétectable. Mais, docteur Léonie Saïdi, et d'ailleurs c'est un problème dans de très nombreux pays d'Afrique, il faut pouvoir évaluer cette charge virale. Et là, eh bien, les appareils, les dispositifs ne sont pas toujours disponibles.
En effet, il n'y a pas d'appareil dans notre région. Nous sommes obligés de recourir à l'aide des pays voisins et c'est là que nous envoyons des échantillons avec l'aide de nos partenaires
et on voit bien, Florent Maréchal, que le problème, il se situe, on l'a tout à l'heure abordé rapidement, au niveau des traitements, c'est absolument capital, mais aussi sur tout ce suivi des personnes, puisqu'aujourd'hui, quand il y a l'enjeu de la charge virale nulle, on l'a bien compris, qui permet de limiter, voire carrément de stopper la transmission, par exemple, de la mère à l'enfant, c'est essentiel. Le problème, c'est de pouvoir évaluer cette charge virale. Aujourd'hui, c'est un vrai problème de santé publique.
Oui, parce qu'effectivement, comme l'expliquait Dr Léonie, c'est qu'il y a énormément de pays dans lesquels aujourd'hui, il n'y a pas accès au bilan sanguin, il n'y a pas accès à la charge virale. Et de fait, si on ne peut pas mesurer la charge virale, c'est compliqué pour suivre, d'un point de vue sanitaire, la personne. Fort heureusement, en tout cas dans beaucoup de pays, ce sont les associations justement qui se substituent d'une certaine manière au système de santé, qui sont pas assez performants et qui vont faire tout cet accompagnement, même s'il n'y a pas la charge virale, qui vont suivre la personne au quotidien, l'accompagner d'un point de vue médical, mais l'accompagner aussi d'un point de vue psychosocial, parce que vivre avec la maladie et prendre un traitement tous les jours, c'est un impact considérable pour une personne, et très souvent en plus, cette personne, elle peut pas forcément le dire à tout son entourage, donc il faut trouver plein d'astuces pour comment prendre son traitement, être observant, et pouvoir vivre avec le VIH.
Et on l'a bien compris, le recours essentiel aux associations, Pascal Kapchang, des actions de terrain, de votre côté aussi au Cameroun qui rencontre des obstacles avec justement l'effort sur la prévention. Est-ce que vous, par exemple, il y a des problèmes d'accès au traitement, de rupture de traitement et éventuellement aussi de ces fameux tests de charge virale, hein, de ce suivi?
Oui, au Cameroun aussi il y a ces problèmes d'accès à la charge virale. Déjà, c'était très coûteux quand il fallait le faire dans des laboratoires privés. Le centre Pasteur a eu des subventions et donc faisait la charge virale à 5000 francs. Mais il y a eu des moments où il y a des ruptures d'intrants et du coup, ils ne peuvent pas faire la charge virale. Donc, c'est un problème pour le suivi médical. Mais à côté de ça, il y a aussi un problème avec des médicaments. Parce que certaines molécules sont en rupture depuis le mois de mai, par exemple. Il y a certaines molécules qui sont en rupture. Les médecins sont obligés de jongler, comme si on peut dire, utiliser le mot.
De remplacer.
Des bénéficiaires, des patients sont suffisamment informés. Par exemple, à quelqu'un, vous avez enlevé un moment l'AZT, plus l'AZT, 3TC et névirapine, pour mettre plutôt TDF, 3TC, névirapine.
Ça, c'est le nom des différentes molécules, puisqu'on combine différents procédés chimiques pour lutter contre le virus.
Voilà. On a changé le premier pour mettre le deuxième en expliquant aux patients dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Voilà, ça crée des problèmes, l'anémie, ça fait un peu de mauvaise répartition des graisses.
Parce qu'il y a des effets secondaires à ces traitements, docteur Léonie, je m'en tourne vers la spécialiste. Quand on prend ces médicaments, effectivement, ça permet de réduire l'activité virale, mais on peut avoir des effets secondaires. Peut-être qu'Augustin, vous êtes bien placé pour le savoir. Notamment, on parle par exemple parfois de problèmes digestifs ou autres. Ça peut aussi fatiguer sur d'autres aspects de l'organisme.
Oui, malheureusement, au début de l'accès au traitement, il y a quand même un paquet d'effets secondaires, mais de plus en plus, les nouvelles générations de médicaments que nous avons aujourd'hui sont de plus en plus tolérées. Il y a de moins en moins d'effets secondaires. Il y a de moins en moins de contraintes en termes de nombre de comprimés à prendre et ça facilite. Nous avons de plus en plus les comprimés combinés également.
Les ça évite de multiplier les XXX cachets.
Et les VMN, néanmoins, ça demeure quand même un traitement lourd. Et certains effets secondaires demeurent l'hypersalivation, la nausée, diarrhée, également vertige, cauchemar, jusqu'à même avoir des idées de suicide, notamment sur Favirens et autres là. Mais bon, c'est aussi des médicaments qui marchent super bien.
Et vous en êtes la preuve.
Hein? La preuve, lorsque vous mettez la balance entre les effets secondaires et les effets bénéfiques, c'est toujours penser vers l'effet. Maintenant, il faut toujours être à l'écoute des gens comme Dr. Léonie également, qui sont là, les accompagnants sociaux, psychologues également, qui nous accompagnent, qui nous expliquent. Et les patients experts également qui sont là et qui nous accompagnent. Et ça marche super bien.
Alors, la qualité des traitements, le problème clé aussi, c'est le coût de ces traitements. Tout ça, ça coûte très cher, Florent Maréchal. Il y a une date très importante à un sujet, c'est en octobre prochain. C'est la France qui va accueillir la réunion de reconstitution du Fonds mondial pour le sida, la tuberculose et le paludisme. Là, l'Afrique est concernée au premier chef. Et c'est vraiment un moment qui va faire date dans la lutte contre le sida. Les associations s'y préparent.
Tout à fait, c'est un moment essentiel. D'abord, on est content de voir que la France accueille cette conférence de reconstitution du Fonds mondial, puisque c'est la France qui est à l'origine de ce Fonds mondial et elle est le deuxième contributeur historique. Et donc, dans cette année importante pour la lutte contre le sida, Solidarité Sida et ses nombreux partenaires associatifs à travers le monde a décidé de lancer une grande campagne qui s'appelle Treatment for All, puisqu'on l'a vu au cours de cette émission. Une personne, et c'est le témoignage d'Augustin, justement, il a dit « Aujourd'hui, je ne transmets plus le virus. » Et donc, si toutes les personnes qui sont porteuses du virus sont mises sous traitement, eh bien, on en a fini avec l'épidémie du sida. Et donc, c'est important de se dire que les prochaines générations vont peut-être connaître un monde sans sida. Et donc, on a décidé tous ensemble
mais
de lancer
un... Mais on a un moment de bascule.
Exactement. Là, en fait, on est pile le moment où, si on n'accentue pas les efforts, le Fonds mondial a estimé ses besoins à 14 milliards de dollars pour les 3 prochaines années. Si on n'arrive pas à ces besoins-là, si on n'arrive pas à ces 14 milliards, eh bien, il y a un risque que l'épidémie reparte et donc et que ce soit d'ailleurs pour la tuberculose et le paludisme. Et donc, c'est important. On lance un appel à tous les chefs d'État des pays donateurs du Fonds mondial. Il faut atteindre cette cible des 14 milliards de dollars. Et donc, on appelle tout le monde à signer cet appel. On interpelle les chefs d'État pour que, on puisse répondre aux besoins et mettre le maximum de personnes sous traitement. C'est vraiment, vraiment important. Et c'est cette actualité de 2019 qu'on va retrouver à Solidaise. On a un stand centre de campagne justement, et on est tous mobilisés avec nos partenaires.
Alors un petit tour de table, hein, Solidaise, c'est les jeunes justement. On a vu en France des chiffres assez inquiétants, hein, sur la reprise de certaines épidémies, notamment d'infections sexuellement transmissibles, sida également, qui reprenait dans la jeune génération. J'aimerais un petit tour de table de vous, les associatifs. Message aux jeunes pour se protéger, pour la prévention, parce que c'est aussi sur eux que reposent beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez à dire justement à ces jeunes du Cameroun qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, Pascal Kapchuang, pour se protéger demain, pour justement mener à bien tous leurs projets?
Ah oui, le message pour nous est assez clair. Il faut qu'ils continuent à se protéger, à choisir parmi les différents modèles qui existent de prévention. Il faut choisir et il faut s'y accrocher. Si on n'est plus à l'aise dans la fidélité ou dans l'abstinence, il faut utiliser un préservatif si on veut avoir des rapports sexuels. Et c'est assez important parce que l'espoir est là, il faut bien qu'ils réalisent leur projet, qu'ils pensent à l'avenir, parce que le jeune responsable, c'est celui qui prend soin de sa santé et de la santé des autres.
Augustin, on l'a entendu tout à l'heure, vous avez des enfants, qu'est-ce que vous allez leur dire quand ils arriveront en âge, à l'adolescence, déjà de ce qui vous est arrivé et de ce qu'ils doivent faire pour avoir une belle vie?
Bon, merci beaucoup. Je pense que j'ai déjà commencé par préparer la plus grande qui a 5 ans. Et déjà au plus à 7 ans, elle doit savoir que son papa vit avec une pathologie lourde, qui est le VIH, également pour que quelqu'un d'autre ne l'insulte pas dans son établissement scolaire. Elle dira que non, mon papa me l'a déjà dit. Et je pense que pour quand même ne pas tomber dans le piège de l'infection VIH, c'est tout à fait naturel que je les sensibilise énormément, que je puisse quand même lever les tabous sur l'éducation sexuelle, la sexualité responsable également. Je pense que c'est très 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 important pour moi, et que les jeunes de ce festival également d'avoir une sexualité assez responsable, de se protéger, de s'amuser, mais d'avoir les pieds sur terre également. Espoir Vie Togo également est une organisation formidable. Je fais un coucou à tous mes collègues qui m'écoutent de l'autre côté, espoirvietogo.org également. Vous pouvez
vous
retrouver
écoute,
là-dessus. Merci beaucoup.
Merci Augustin, avec beaucoup d'enthousiasme. Docteur Léonie Saïdi, qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes qui viennent vous voir pour dire, pour que si vous êtes séropositif, prenez vos traitements, mais si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce qu'il faut faire dans votre vie pour vous protéger?
Je leur passe toujours le message de l'abstinence ou l'utilisation correcte de préservatifs. Mais chez les jeunes, mon message, je voudrais plus l'adresser aux jeunes qui sont séropositifs. La plupart des jeunes, ils se disent que comme ils ont le VIH, c'est la mort, ils sont condamnés et ils ne savent plus se prendre en charge ni protéger les autres. Pourtant, en protégeant l'autre, on se protège aussi. Mais avoir le VIH ne signifie pas que on ne peut pas attraper les autres IST, infections sexuellement transmissibles. C'est pour ça que je les encourage tous à continuer la lutte et surtout c'est protéger et protéger les autres.
Protéger les autres, merci, oui. Ben, ce sera le mot de la fin. C'est un joli mot, et continuer à vivre en tout cas. Merci à toutes et à tous, on a l'ambiance de Solidaise qui se prépare derrière nous. Merci d'avoir participé à Priorité Santé, en direct de l'hippodrome de Longchamp, aussi jusqu'à dimanche soir, ce festival Solidaise. Merci à vous, docteur Léonie Saïdi, médecin en RDC au sein de l'association SOS Boukavou. Merci à vous, Noémie Pinchdès, bénévole. Merci pour votre témoignage plein d'entrain, Augustin, militant au sein de l'association Espoir Vie Togo. Merci à vous, Pascal Kapchuang, responsable du planification suivi pour cette association des femmes africaines Action Sida Douala. Merci à vous, Florent Maréchal, directeur des programmes santé et solidarité à Solidarité Sida. Et Priorité Santé, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a préparé, fabriqué cette émission. C'est Toussamaké, Ophélie Lassène, Héloïse Bajou avec nous aujourd'hui, Didier Bleu et Boris Vichit à la réalisation. Et on va se retrouver lundi, en direct bien sûr des studios de RFI, pour une nouvelle émission. Nous parlerons des troubles et maladies de la prostate. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les transporteurs professionnels, profitez d'une assurance dans plus de 14 pays pour l'acheminement de vos marchandises. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.